France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On en parle beaucoup, mais qu'en dit-on vraiment ? Ce que produit l'IA générative dans le débat public, c'est le plus souvent quelques généralités vagues sur les bienfaits ou les méfaits de nos existences virtuelles. Mais est-on certain que le monde numérique est si dématérialisé qu'on le prétend ? Après tout, que font les robots lorsqu'ils prélèvent dans l'anarchive de quoi recomposer leurs propres images ? Anarchive, c'est ainsi que Pierre Kasounoguès et Gwenola Wagon appellent, dans leur livre « Les images pyromanes », cette accumulation chaotique d'images possibles. Ils font de l'extractivisme. Et Barnabé Sauvage nous alerte alors sur le sens écologique de cette immense dépense d'énergie. Mais en puisant dans l'anarchive, les IA génératives recomposent le passé et nous offrent le spectacle de ce que Éric Bulot appelle des cristallisations, c'est-à-dire une manière de voir le monde au futur antérieur. Le monde, selon l'IA, explorer les futurs latents. Tel est le titre de l'exposition qui se tient au Jeu de Paume à Paris jusqu'au 15 septembre et qui nous a donné envie justement d'y aller voir. Avec Gwenola Wagon, Barnabé Sauvage et Éric Bulot, mais aussi avec notre sociétaire du jour qui nous rejoindra, Sophie Crasse, nous allons donc tenter de comprendre comment faire œuvre avec l'IA générative à partir des expériences concrètes de celles et ceux qui, au sens propre, tentent des choses. C'est la meilleure façon sans doute de sortir du flou d'un discours qui, parce qu'il nous promet un avenir radieux pour les plus compétitifs d'entre nous, nous paraît inévitablement un peu suspect. Écoutez par exemple ce qu'en disait Rodolphe Chabrier, superviseur des effets visuels à MacGuff, au matin de France Culture en 2024.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un outil, l'IA. Je pense que c'est pas un outil. Tout le monde se rassure en disant « Ouais, ça n'est qu'un outil, c'est ce qu'on en fait, etc. » Moi, je vois l'IA comme un partenaire. C'est vraiment un partenaire, et un partenaire qui a des millions de bras et qui permet de faire des tas de choses, que ce soit des images ou des idées ou des concepts, des recettes de cuisine, ce que vous voulez. Et donc, il y a une façon d'appréhender l'IA et de comprendre comment ça fonctionne. On parlait d'augmentation, c'est une forme d'augmentation à notre créativité. Et un des trucs qui est cool avec ce dispositif, il y a une prime à ceux qui sont le plus inventifs, à ceux qui ont l'œil, à ceux qui ont quelque chose à dire, en fait, globalement. En fait, c'est un rebond, c'est un échange. On rebondit sur des choses et l'IA va rendre plus performants les gens qui sont bons. Et effectivement, peut-être, bizarrement, c'est contre-intuitif, rendre moins intéressants ceux qui ne le sont pas.
Oui, ça va être très très cool en fait. Et quand on a un peu le mauvais esprit, on se dit tiens, on va peut-être flairer un rat là-dedans dans cette histoire de compétition exacerbée. Éric Bulot, bonjour.
Bonjour.
Du cinéma, vous êtes à la fois un théoricien et un expérimentateur. Vous l'enseignez à l'École nationale supérieure d'art de Bourges et vous lui avez consacré plusieurs essais, dont le dernier, Cinéma vivant, est paru cette année aux éditions Macula. Mais vous l'expérimentez également en réalisant des films d'art, comme Le rêve d'Abel Gans, qui conjugue le cinéma au futur antérieur et dont on va parler, qui est dans l'exposition. C'était au fond déjà là, en somme, ce rêve d'un cinéma intérieur que l'IA explore.
Oui, c'est ce qui m'avait semblé, c'est-à-dire que l'IA apparaissait comme une sorte d'actualisation, au fond, des puissances que l'avant-garde avait déjà imaginé
pour le cinéma à venir. Bonjour Gwenola Wagon.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École des arts de la Sorbonne, à l'Université Paris 1, et vous arpentez le monde numérique contemporain, ou plutôt vous l'inventoriez avec vos films, vos performances, vos livres. Et je l'ai dit avec Pierre Kasounoguès, vous venez de publier chez UV Éditions les images pyromanes, théorie fiction des IA génératives. Et l'un de vos films, Chronique du Soleil Noir, est également exposé au Jeu de Paume. On va également en parler, puisqu'on va parler effectivement d'abord de ces expériences, de ces performances, de ces créations. On met beaucoup le feu aux images, hein, dans l'IA. On le comprend dans votre livre, hein, ces paysages catastrophes. C'est quoi cet imaginaire de la destruction? On va en reparler, mais en un mot.
Alors, il y a un imaginaire du feu, mais aussi de l'éblouissement, de la sidération, du soleil, de l'irradiation, oui. et son envers, effectivement, la consumption, les cendres, tout ce qui pourrait être les conséquences des incendies.
Et cette énergie qu'on dépense follement. Bonjour, Barnabé Sauvage.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en arts visuels et cinéma. Vous avez soutenu une thèse sur les politiques du cinéma de poésie que vous soumettez à une approche matérialiste, justement, de l'art visuel. Cinématérialisme est le titre d'un livre collectif que vous avez publié en 2024 avec des co-autrices et co-auteurs. L'IA n'y échappe pas, puisque vous travaillez actuellement à un projet post-doctoral intitulé Expropriation, une histoire matérialiste de l'IA par le film. Ah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au fond, derrière ces machines, il y a des hommes, et sous ces machines, il y a des ressources que, évidemment, on dépense avec allégresse.
Oui, exactement. Il y a des hommes, des femmes, souvent de certains pays du sud global, qui sont beaucoup plus concernés, effectivement, par cette somme de travail que les modèles d'intelligence artificielle générative, notamment, mettent en œuvre. Et c'est justement toute cette histoire connectée d'une nouvelle mondialisation, on pourrait dire, qui met en œuvre à la fois des ressources, du travail, qu'une approche matérialiste essaye de penser.
Alors évidemment, de cette approche matérialiste des images virtuelles, l'exposition du Jeu de Paume n'est pas la dupe, au contraire, hein, c'est l'observateur critique. Par exemple, ce qui m'a frappé dans l'exposition, il y a une œuvre qui s'appelle Meta Office, qui a été créée en 2023, qui est une sorte de totem, on va dire, d'écran qui bouge et qui montre que derrière chaque prompt, derrière chaque image généré automatiquement, eh bien, il y a des travailleurs du clic, et ça montre justement leurs intérieurs, hein, c'est-à-dire la manière dont ça se fabrique, tout ça.
Oui, en effet, c'est là qu'il y a vraiment une approche qui retournerait du coup le regard des images génératives sur elles-mêmes, puisque l'idée, c'est non pas de s'intéresser à ce que le travail de ces personnes produisent, mais aussi dans quelles conditions ils et elles produisent ce travail, qui est souvent un travail ingrat, qui consiste à détourer des images trouvées sur Internet, des images de vidéosurveillance, des images parfois aussi qui proviennent de e-shop sur des sites type Amazon. Et tout ce travail vient ensuite alimenter des bases de données qui sont ensuite données en entrée, comme on dit, c'est-à-dire viennent entraîner des modèles qui sont ensuite utilisés pour produire de nouvelles images.
Gwenola Wagon, il y a ce travail invisible qui nous rend aussi sensibles à ce que font les robots. C'est-à-dire que, évidemment, ils doivent d'abord être éduqués. On doit les sur des corpus leur apprendre effectivement à prélever et composer. Mais derrière tout ça, il y a évidemment toujours non seulement du travail, mais de la création. Et vous vous intéressez à ce rapport entre travail et création.
Oui, alors c'est peut-être le spectre entier qui nous intéressait, Pierre et moi, dans le livre, et aussi le film fait écho à certains moments de la création, c'est-à-dire qu'on peut pas créer ex nihilo, donc on est aussi conscient et on analyse aussi cette face cachée de l'iceberg qui concerne effectivement la partie, on va dire, invasive des IA qui a aspiré toutes ces images et toutes ces données. Et donc dans le livre en particulier, il était question de prendre la création dans un aspect assez prismatique et de voir comment, à travers ce territoire des espaces latents, donc ces IA génératives, comment on pouvait créer, est-ce que ce monde était hostile ou pas, et est-ce qu'on pouvait sortir des choses, y compris en faisant bugger la machine, en la faisant défaillir, en la détournant de certaines aussi normes, acclimatation des images, ambiance, on va dire, assez moyenne aussi, une sorte de médium généralisé qui irradie de ces machines.
Alors, un prisme ou peut-être un cristal, Éric Bulot, dans votre livre dont je disais un mot, Cinéma vivant, qui vient de paraître aux éditions Maculin, bien vous prenez effectivement quelques amorces, quelques intuitions du cinéma d'avant-garde qui imagine qu'il y aura de toute façon un après, une après-histoire. L'après-histoire, c'était Méliès, Lumière, et puis après les salles obscures, il y aura quelque chose d'autre, un cinéma intérieur qu'on rêve, et vous prenez appui sur Saint-Paul Roux, qui dans les années 30, un poète évidemment, a cette phrase un peu cryptique, au cinéma jusqu'ici l'image fut reflétée, elle va être cristallisée, vous l'avez utilisé comme prompt, c'est-à-dire comme consigne pour la machine, pour produire une image, et qu'est-ce qu'elle vous a donné?
Alors, c'est toujours un peu un jeu, parce qu'en fait, à la fois, donc il y avait ce texte « Cinéma vivant » de Saint-Paul Roux, qui sont des notes sur une sorte, ce qu'il appelle la post-histoire, qui fonctionne un peu comme des aphorismes, où il imagine un cinéma qui serait hors du dispositif traditionnel, ce qu'il imagine même que les acteurs nous rendraient visite, enfin les personnages nous rendraient visite, donc on est presque dans, on ne sait pas si c'est du théâtre ou de l'hologramme ou de... Et j'ai été frappé par les promesses qui sont exprimées dans le livre et qui me semblaient correspondre à la possibilité d'une visualisation par l'IA. Alors le prompt proprement dit ne peut pas utiliser le texte lui-même de Saint-Paul Roux.
Il y a
un travail d'écriture qui est fait pour arriver à décrire une image qui me semble la plus proche de ces promesses. Et en même temps, c'est un aller-retour permanent entre
donc
le texte
et l'image. On voit c'est une image en noir et blanc, on voit du...
Oui, mais tout ça est déjà disons calculé. C'est-à-dire, il y a un mélange, c'est ça qui m'a beaucoup passionné, c'est il y a un mélange entre le calcul et l'accident quoi. Et où je retrouvais quelque chose de l'histoire de la photo elle-même puisque il y a vraiment deux traditions en photographie, enfin l'une qui consiste à vraiment préméditer ou prévisualiser l'image, chez les Américains notamment, avec le zone system, enfin la photographie à la chambre et tout, et puis quelque chose qui serait de l'ordre de l'accident, du reportage, et avec, quand on essaie de produire les images avec l'IA, on a cette double articulation, c'est-à-dire on peut avoir un prompt qui essaye de coller le maximum à l'image. Il y arrive plus ou moins, mais il y a toujours un peu des accidents, donc on retrouve ce double mouvement. Et je dois aussi informer la plateforme des choix techniques.
Oui, c'est ça. Alors, justement, pour évoquer ce cinéma intérieur ou futur antérieur, vous avez pris la figure d'Abel Gance, vous êtes rentré dans le rêve d'Abel Gance, c'est ce beau film de 10 minutes qui s'appelle Le rêve d'Abel Gance. Écoutez.
Ces magies endormies comme des momies dans leurs bandelettes, si toutes ces magies sortaient, le cinéma deviendrait alors véritablement l'art que je croyais qu'il serait beaucoup plus tôt, c'est-à-dire capable de transformer les gens. Il faudrait que le public qui sorte d'une salle soit absolument métamorphosé, que ce ne soit pas le même homme. Il faut sauter à pieds joints en avant dans les cercles de feu de nos possibilités et ne pas s'arrêter au mouvement de stupeur et au ricanement des témoins.
Ah, qu'est-ce qu'on entend là?
Alors on entend la voix d'Abel Gance, c'est en 1956, dans une émission de radio,
voilà,
qui s'appelle Le Bureau des rêves perdus, dans laquelle il fait part de ses enthousiasmes et de ses déceptions par rapport à un art qu'il a imaginé. Et le volume de Saint-Paul Roux, Cinéma vivant, est dédié à Abel Gance, donc il y a une
vous
proximité
êtes rentré,
entre les deux.
Vous êtes rentré dans ce bureau que vous avez imaginé comme une maison vitraille,
oui.
Et il y a là... Un laboratoire de l'avenir.
C'est de se dire que les rêves perdus, précisément, c'est l'expression utilisée, constituaient comme une sorte de réserve de puissance que l'on pouvait essayer d'activer. Alors c'est à la fois une maison vitrail, c'est à la fois un studio de tournage, c'est à la fois un espace neuronal, enfin ça occupe différentes fonctions.
Il y a des images arrêtées qui ont été effectivement générées, comme vous l'avez expliqué, par l'IA. Il y a la voix d'Abel Gance, il y a aussi des bands-titres, et puis il y a de la musique qui est elle aussi...
Là c'est une musique produite aussi par l'IA.
Oui. Et pourquoi vous avez choisi cette...
Il me semblait qu'il fallait aller au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'un film qui ne soit vu et entendu par personne, enfin, c'est-à-dire qu'il y ait ce regard un peu de martien qu'on puisse avoir par rapport à cet objet, pour lui donner l'étrangeté de l'absence de point de vue, au fond.
Ouais. Et dans ce livre, Cinéma vivant, vous nous donnez à voir des procédés que justement les poètes, les surréalistes ont imaginés de vision non rétinienne. Il y a des procédés étonnants d'ailleurs.
Oui. Bon, je me suis beaucoup intéressé. C'est de réécrire au fond des chapitres de l'histoire du cinéma. Par exemple, je me suis beaucoup intéressé à la vision par optique. C'est une théorie de Jules Romain comme quoi la peau est un organe optique, enfin on peut voir avec la peau, comme si toutes ces rêveries ou ces élucubrations parfois pour constituer des chapitres d'une histoire, d'un cinéma mental ou psychique.
Vous voyez les vitraux de l'extérieur, disait Abel Gance, et vous criez à l'incendie. Que diriez-vous si vous étiez comme moi à l'intérieur du cristal? Vous parliez de prisme, Gwenola Wagon, et vous écrivez sur l'incendie. Quel est le regard que vous portez sur l'œuvre d'Éric Bülow?
Je suis assez passionnée, hein, pour le dire en deux mots. Je pense que ce film renvoie tout à fait à cet aspect un peu rêve qu'on peut avoir quand on génère des images. Peut-être je vais revenir un peu sur la génération d'images pour mettre un peu l'auditeur dans la place du créateur, spectateur d'IA. Donc ces plateformes d'IA générative, mettons grand public, bien qu'il y en ait plusieurs en quelque sorte qui se font concurrence, permettent par le biais d'images aussi bien que de textes de générer d'autres images à partir d'images déjà enregistrées qui ne sont pas forcément des imitations de ces images stockées, mais plutôt par des vecteurs en génèrent de nouvelles. Et donc il y a aussi un jeu qui s'opère entre celui qui va créer l'image et la machine. Et dans ce jeu de tirage, parce que c'est vraiment des tirages, il y a du hasard. Et ce hasard, effectivement, il peut convoquer toute une histoire de l'art qui joue sur le hasard et qui crée aussi, dans ce moment de tirage, une forme aussi de somnambulisme, on pourrait dire, de rêverie. Et quand j'ai vu la pièce d'Éric Bülow, j'ai senti aussi cette relation un peu somnambule, un peu à la lisière, à la frontière entre les deux, que voilà, je trouvais assez juste.
Effectivement, l'IA, elle est probabiliste, hein, c'est-à-dire qu'elle va non pas imaginer, mais calculer l'image la plus proche de celle qu'on croit vouloir regarder par ressemblance ou par similarité. Et de ce point de vue-là, vous utilisez Gwenola Wagon, le grand historien de l'art Abby Warburg, qui a aussi constitué un atlas qui, d'une certaine manière, peut faire partie de ces préfiguration de l'IA, mais qui pose une question qui est vraiment une question importante. C'est est-ce que le bon voisin le voisin le plus proche est nécessairement le bon voisin, hein? Ça, c'est aussi une question qui est posée Barnabé Sauvage dans l'exposition du jeu de paume.
Oui, effectivement. En fait, il faut peut-être revenir à ce concept central qui est présenté dans l'exposition, qui est celui d'espace latent, alors qu'il y a un espace un petit peu difficile à prendre, dont il est difficile de prendre la mesure, puisque c'est un espace mathématique composé de plusieurs dizaines de milliers de dimensions, donc qui est impossible à se représenter, et qui en fait est une sorte, on pourrait le résumer comme une sorte de bibliothèque ou de compression d'informations, c'est-à-dire que tous les mots et toutes les images et toutes les phrases qui ont été données au modèle lors de la phase d'entraînement, ont été en quelque sorte réduits, ont été découpés en petits points, dont chacun des paramètres, des vecteurs dont tu parlais, Gwenola, sont en quelque sorte des coordonnées. Et ce qui est important, c'est de comprendre que ces modèles, ils permettent de réaliser des opérations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris qu'un certain vecteur, par exemple, pouvait représenter une certaine propriété, par exemple l'âge ou le genre, c'était les exemples beaucoup pris par les ingénieurs au tout début avec leur binarisme qui appartient à leur univers de référence. Une fois qu'on comprend quelles sont les manipulations, quelles sont les opérations à faire pour opérer une translation d'une image à une autre, on peut ensuite l'utiliser sur d'autres images et donc comme ça explorer en fait cet espace. Et c'est en effet tout à fait intéressant de voir quels sont les choix, y compris des choix politiques, qui sont faits pour contrôler et pour construire en fait ces espaces. Et à mon avis, on peut là aussi rapprocher les choix qui sont faits de ceux des bibliothèques. Comme pour les bibliothèques, les espaces latents, on peut décider de ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans la bibliothèque, quels sont les systèmes de classification que l'on va choisir pour placer ou non, pour choisir alors les bons, les mauvais voisins, selon l'exemple que vous avez pris de l'Atlas Mnemosyne d'Abby Warburg. Et on peut aussi choisir, et c'est un des éléments qui m'intéresse aussi, qui a le droit ou qui n'a pas le droit de déambuler parmi les rayonnages de cette bibliothèque, qui y a accès. Est-ce que les artistes peuvent pénétrer vraiment dans tous les recoins, ou au contraire, est-ce qu'il y a des endroits qui sont interdits d'accès?
La bibliothèque, parlons-en justement, Gwenola. Vous nous faisiez remarquer, quand on préparait cette émission, que on n'avait pas très bien compris, au fond, pourquoi Google Art Project avait souhaité numériser tout l'art ancien. On comprend mieux, peut-être, aujourd'hui. Il s'agit, d'une certaine manière, de constituer la bibliothèque des similarités à partir de laquelle, effectivement, se construit l'IA.
Oui, j'ajouterais pas seulement les similarités. Alors, mettons que le Google AR Project ait basculé tout son contenu dans ces IA génératives. Supposition.
Oui, en fait, c'est pas vraiment prouvé.
Autre, d'ailleurs, grandes opérations de numérisation de l'histoire de l'art. Il pourrait y avoir aussi l'idée de récupérer des styles ou des ambiances artistiques pour les rendre monétisables ou en tout cas en faire une forme de capture de l'attention. Et on pourrait imaginer, comme ça, un peu les spéculations qu'on fait dans le livre, que Turner pourrait voir sa lumière déplacée dans une autre toile ou le Wanderer, le voyageur contemplant la mer de nuages, figuré ailleurs, soit par sa posture, soit par sa couleur, soit par son atmosphère, et devenir presque franchisé, d'une certaine manière, il pourrait comme ça constituer des univers qui seraient détenus par, mettons, des plateformes, et déposséderaient l'histoire de l'art d'une certaine forme de, non pas de gratuité, mais en tout cas d'accès.
C'est ce que vous appelez le paysage catastrophe. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, enfin oui et non, mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous montrez qu'au fond, quand l'IA, quand on lui donne une image à la Turner, quand il y a un incendie derrière, il imagine une cause.
Exactement. Alors, ces machines ont domestiqué les images pour leur donner une forme de rationalité. Donc, il y a une forme de rationalité à l'image. Alors, s'il y a du rouge, c'est un incendie. S'il y a une porte, elle peut s'ouvrir, etc. Et donc, c'est tellement fonctionnel, comme on parlait aussi d'optimisation, que à l'inverse, quand on veut créer avec ces images, on peut s'amuser avec cette hyper-rationalité et faire dire l'inverse, ou voir faire littéralement un incendie dans la peinture de Turner qui se déploie avec des flammes. Donc rendre les choses peut-être très littérales ou au contraire aller dans l'absurde. Donc ça, c'est quelque chose qui nous avait aussi interpellé.
En tout cas, la porte qui s'ouvre, Éric Bülow, c'est quand même la porte du rêve. C'est-à-dire pour vous, ce cinéma intérieur, ça reste effectivement une projection onirique des archives du futur, c'est-à-dire d'une manière effectivement de ressaisir le temps. On n'est pas du tout dans le cinéma du monde réel, celui auquel on peut
non,
se fracasser.
Non, mais ça, c'est effectivement des choix. Il me semblait qu'il y avait des choix personnels. Enfin, il me semblait qu'il y avait une spécificité un peu, en tout cas, il y avait une ligne un peu surréaliste possible à travailler à travers l'IA, c'est-à-dire la surprise, la trouvaille. C'est-à-dire, on a l'impression de parcourir l'espace latent comme un sourcier et de chercher tout à coup les images. Et ces images, on veut qu'elles nous surprennent. Mais évidemment, il y a un horizon d'attente. Donc, pour que ça ait lieu, il faut aussi le provoquer. Donc, il y a ce mélange entre entre l'attente et la surprise qui a guidé un peu la fabrication des images.
Kraftwerk, Ça vous plaît, ça, Barnabé Sauvage?
Oui, hein, mais
j'avais un grand sourire. Pourtant, vous étiez carrément pané.
Hein. Je ne pas du tout, mais ils ont continué à faire des albums encore assez tard, et notamment un album que j'aime beaucoup sur le Tour de France.
Ah ouais.
Ça va être bientôt la saison, donc écoutez-le si vous voulez.
Alors, vous êtes sur France Culture et on tente de faire œuvre avec l'IA. C'est exactement ce que vous avez fait, Gwenola Wagon. Vous avez... on l'a dit, contribuer théoriquement à la compréhension de ce que peut l'IA pour l'art, mais vous êtes aussi cinéaste, artiste, et justement, dans cette exposition dont on parle, le jeu de paume, vous présentez Chronique du Soleil Noir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors Chronique du Soleil Noir, c'est un film qui part au départ de l'histoire de Jules Janssen, qui est un astrophysicien français plutôt dans la seconde moitié du 19e siècle, et qui a eu comme obsession de chercher à comprendre le Soleil à travers, notamment au début, les éclipses, parce que pour photographier le Soleil, il fallait le prendre en photo pendant les éclipses. Donc il a parcouru le monde à la recherche de ces éclipses.
Avec son revolver.
Il a inventé aussi le revolver photographique qui sert à tirer, en tout cas capter le Soleil, et qui a aussi inspiré Étienne Jules Marais.
Ouais.
Et donc j'ai voulu, dans ce film, à travers un scénario de Pierre Cassou-Noguès, revisiter des archives qui n'existaient pas, puisqu'il y avait assez peu d'images des voyages de Jules Janssen, et notamment il n'y avait pas d'image où il tirait sur le soleil, enfin pas comme je le voulais, et donc il s'agissait dans ce film de recréer à partir des IA génératives des images qui auraient pu être plausibles, crédibles sur oui. Jules Janssen. Et par extension, on a revisité en un clin d'œil aussi l'histoire de la jetée de Chris Marker, en s'intéressant au voyage dans le temps, en imaginant un soleil beaucoup trop chaud, où les personnes seraient réfugiées dans des observatoires et redécouvraient les archives de Jules Janssen. Et grâce à peut-être quelqu'un qui a un peu plus de mémoire de son enfance, pourrait essayer de se souvenir du soleil d'avant.
On parlait de Chris Marker la semaine dernière, mais côté cinéma du réel, le joli mai 1962. Mais 1962, c'était aussi évidemment ce grand film que vous reprenez, au fond, La Jetée. Et c'est tout aussi réel, parce que l'histoire que raconte Chronique du Soleil Noir, c'est l'histoire de réfugiés qui effectivement vont tenter de, au fond, à partir du passé, de recomposer un avenir qui leur est impossible.
Oui. Donc ils ne peuvent plus voir le soleil, ils ne le voient qu'à travers ces archives du soleil d'avant, des photos. Et surtout, l'idée derrière ce film, c'était de faire une sorte de fable sur la crise environnementale et qu'est-ce qu'on peut laisser comme image de la crise. Qu'est-ce qu'on peut aussi laisser comme histoire de ce qu'on peut vivre actuellement. Est-ce qu'on peut l'exorciser par une histoire? Est-ce que ça peut donner envie de réagir? Et donc il y avait cette idée d'un récit en féminisant aussi Marker. Voilà, oui. C'était un petit renversement. Mais aussi en essayant de s'interroger sur finalement faire des images de la crise climatique, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ce n'est pas aussi finalement une oxymore ? Est-ce que ce n'est pas même dangereux ? Et là, on s'est aussi interrogé sur cette fameuse pyropictomanie,
voilà.
De ce que ça signifie aussi que de travailler avec ces images, pas forcément seules, mais en termes de population mondiale, si on en fait tous tout le temps à notre insu, est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement une dérive, enfin, un problème énergétique ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un plaisir à voir une forme de dépense d'énergie que produisent ces images, les images génératives?
Donc la petite monnaie, effectivement, avec laquelle on est payé. Oui, Éric Bulot.
Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que, par exemple, j'en reviens aux rêveries de Saint-Paul Roux, son obsession, c'est de savoir comment sera alimenté le cinéma du futur. Et il dit, ce sera le soleil. Ou peut-être le mouvement des marées, enfin, c'est-à-dire que tout à coup on voit que même ces rêveries technologiques sont hantées par la question de la production de l'énergie, quoi. Et c'est curieux qu'on travaille comme ça. Enfin, il y a un mouvement effectivement de paradoxal, d'exacerbation des puissances de l'IA et en même temps de critique interne, puisqu'on travaille sans arrêt sur effectivement la production d'énergie.
Gwenola Wagon.
Oui, alors c'est ce contraste, enfin cette contradiction qui est finalement intérieure à l'image. Alors elle est pas du tout dans l'idée d'une morale. Hein. C'est pas on va pas moraliser qui que ce soit parce que on est dedans et on les fait aussi. Ou en tout cas on les a faites aussi ces images. Mais c'est aussi l'idée de s'interroger sur notre propre plaisir à voir des images, plaisir des images donc, et aussi à les faire émerger. Et ce plaisir qui finalement, parfois, puisqu'il est aussi lié à l'attention, il est aussi attentionnel, et que les images ne coûtent plus rien, puisqu'elles sont gratuites, elles coûtent de moins en moins cher à se faire, à se produire, elles se produisent aussi très vite. Ce qui reste, c'est la monnaie attentionnelle. Donc c'est une espèce de monétisation de notre regard qui regarde paradoxalement cette dépense d'énergie. Donc il y avait cette boucle qu'on s'est amusé, Pierre et moi, à raconter sous forme de fable, en extrapolant bien sûr...
Oui, parce que il faut le dire aussi, c'est une fiction théorique.
C'est une fiction critique où alors là, les spectateurs ne font que regarder des images d'incendie et le travail de la planète se consommer.
Alors justement, moi je parlais de petite monnaie de l'IA, celle effectivement qu'on consomme sur nos portables, et c'est tout à fait frappant de voir combien le plaisir de base, c'est de mettre le feu, c'est de produire des catastrophes, c'est de faire tomber des villes. Bon, d'une certaine manière, le cinéma catastrophe le fait depuis bien longtemps, mais enfin, c'est assez frappant aussi, cet imaginaire de la destruction.
Alors, il y a d'un côté l'imaginaire de la destruction qui s'agit de documenter, puisqu'il y a des destructions et qu'il faut documenter, et il y a d'un autre côté, à l'insu de ça, un imaginaire de la destruction qui nous échappe, parce qu'on l'a vécu lors d'un méga incendie dans les Landes, où ce qui reste de cette forêt des Landes, finalement, est-ce que ce ne serait pas les images de l'incendie que les personnes ont diffusées dans les réseaux sociaux, comme une sorte d'anti-monument de la destruction? Et ce temps passé à diffuser ces images d'incendie a aussi pris beaucoup d'énergie. Donc on interroge aussi cette espèce de phénomène qui nous dépasse totalement, sur lequel on n'a pas de prise, mais qu'on trouve important de raconter, puisqu'il est récurrent. On le retrouve à chaque méga incendie, à chaque catastrophe. De nouveau, ces images nous submergent et elles nous sidèrent aussi.
Oui.
Et comme elles nous sidèrent, elles deviennent aussi des spectacles à notre insu, quoi.
Bon, vous parlez de fiction, justement, ce qui documente notre rapport à la fiction, c'est quand même beaucoup la série télé. Écoutez la bande-annonce de la saison 7 de Black Mirror.
On sera tous des cyborgs dans peu de temps.
Oui. N'oubliez pas qu'ils sont générés par l'IA.
Pour eux, tout ça est réel.
Prête ? Je suis tatouée.
On doit créer du software qui élève nos sens. Où je ne vois pas quel putain d'intérêt il y aurait à avoir tous ces outils à notre disposition.
Je n'avais jamais rien vu de pareil.
L'être humain considère les autres formes de vie comme des espèces inférieures.
T'as un problème avec moi ?
Quoi ?
Elle était juste un petit peu étrange.
Étrange ? On est tous un peu étranges. S'échapper ?
Tuer l'autre.
Je n'apprécie pas du tout ce jeu.
Je pète les plombs, moi, ici.
La VF, c'est quand même un putain de problème. Voilà, d'ailleurs, au passage, un métier qui est vraiment en danger par l'IA. On est loin d'Abel Gans, là, Éric Bulot. Mais ça vous intéresse quand même.
Y a un épisode qui s'appelle Hôtel Rêverie, dans la saison 7, qui m'a semblé comme une sorte d'illustration du cinéma vivant, puisqu'il s'agit de faire un remake d'un film, en l'actualisant, en le féminisant aussi. Le tournage du film a lieu pendant la durée du film, un peu comme l'émission aujourd'hui. Comme si, au fond, vous étiez seul et entouré d'intelligence artificielle et qui jouent, enfin, qui ont un script et qui jouent. Et puis, évidemment, il y a un grain de sable. Il y a une histoire d'amour qui se crée à l'intérieur de ça. Et la chose... Et c'est très fin. Et c'est... Alors, il y a toujours ce mélange, comme dans Black Mirror, enfin, entre l'utopie et la dystopie. Mais on pense immanquablement à Saint-Paul-Roux et à cette idée que les personnages vont arriver dans le réel.
Alors le réel, justement, c'est ça, ce contre quoi on se fracasse. Et d'une certaine manière, vous en parlez, Barnabé Sauvage, c'est aujourd'hui l'objet de votre recherche. C'est la question justement des ressources, de la dépense énergétique, de la question immense, en fait, écologique que pose ce monde faussement virtuel. On n'est pas dans les nuages, on est vraiment là, pour le coup, sur Terre, et une Terre qu'on dépense.
Oui, en effet, c'est tout un travail que j'essaye de mener dans la lignée de du livre que vous avez mentionné en introduction, ce livre Cinématérialisme, qui essayait de prendre en fait en train une vraie révolution qui actuelle dans l'histoire du cinéma, l'histoire des techniques, qui est un travail sur le cinéma en tant que dispositif qui est lui aussi fondé sur des techniques, des ressources pour le plastique et tous les pétroles nécessaires pour faire la pellicule, pour avoir de la pellicule dès 1895. Les frères Lumière, en fait, sont avant tout des chimistes avant d'être des inventeurs. Ils ont fait fortune, d'ailleurs, davantage sur le commerce de leur pellicule que sur celui de leur invention.
Et donc, le tungstène aussi.
Bien sûr, le tungstène de évoqué dans un travail récent de Brian Jacobson qui s'appelle Le cinéma des extractions, qui est un jeu un peu sur un thème historiographique, un mot qu'on a pour parler du cinéma des années 10 et des années 20, le cinéma des attractions, celui de l'histoire foraine, celui de l'histoire du théâtre filmé. Aujourd'hui, c'est plutôt le cinéma des extractions, si on veut. C'est-à-dire,
tungstène, c'était pour les projecteurs, en fait.
C'est ça. C'est en fait ce métal qui est utilisé dans les dispositifs de projection pendant toute l'histoire du cinéma, puisque c'est le métal qui est nécessaire dans les ampoules pour faire fonctionner les projecteurs. Et donc, c'est aussi de cette manière-là que j'ai décidé de, et je suis pas du tout le premier à l'avoir fait, d'interroger l'intelligence artificielle et surtout les images générées par de tels modèles du point de vue de leurs conditions de création les plus directes, les plus matérielles, et donc en essayant de faire une histoire de tous les métaux rares, de tous les minerais nécessaires dans l'élaboration à la fois des conducteurs, des transistors, mais aussi de ce qui va devenir les data centers, et donc d'essayer d'avoir une image plus complète, plus globale de ce que représente la création d'images artificielles.
Et notamment donc le cobalt.
Et notamment le cobalt qui est effectivement...
En République démocratique du Congo. Hein.
C'est ça, oui. En fait, donc pour replacer, je m'interroge sur l'histoire matérielle de ces modèles, mais aussi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment les films produits depuis, c'est un phénomène assez récent, 2023, 2024, 2025, comment les films eux-mêmes, et y compris les films générés par intelligence artificielle, ont à cœur de montrer cette histoire beaucoup plus longue que l'histoire de la génération dont vous avez déjà parlé, qui est celle qui occupe l'artiste et le modèle, mais en fait, il y a toute une sorte de ce que j'ai appelé une chaîne d'approvisionnement, une chaîne de montage. En amont de la question du montage du film, il y a aussi toute une chaîne de montage du film qui nécessite tout un travail sur effectivement l'énergie, on en a parlé, mais tout un approvisionnement en ressources. Et la raison pour laquelle je trouvais que le concept de pyropictomanie dont vous avez parlé tout à l'heure était particulièrement intéressant, c'est que il met en œuvre à la fois des questions de dépenses énergétiques du point de vue de ce que les images montrent, mais aussi en quelque sorte ce que les images dépensent elles-mêmes pour être produites. Et je trouve que cette question elle est très intéressante à analyser. Aussi du point de vue de ce que, non seulement ce que ça fait aux IA, mais ce que ça fait aux images.
Bien sûr.
L'histoire de l'art a toujours été travaillée par cette question de la puissance des images, cette question de la force. Alors, ça peut être les conceptions qui reviennent jusqu'au mana ou au fétiche. Ensuite, dans l'histoire de l'art chrétienne, par exemple, tout un travail sur la représentation de l'incarnation. Ensuite, après les théories psychanalytiques qui parlaient du travail de l'image, comme il y avait un travail du rêve chez Freud. Et de la même façon, ici, il me semble qu'on est dans un nouveau paradigme de la question de la dépense ou de la question de la puissance ou de l'énergie qui proviendrait aussi de ce monde matériel en amont de l'image.
Donc, qu'on va extraire, parce qu'effectivement, elle est deux fois extractiviste, cette industrie de l'image générée par l'IA, Gwenola Wagon, parce que, Bé Sauvage l'a bien dit, parce qu'elle est matérielle et matérialiste, mais aussi parce qu'elle va effectivement puiser dans des corpus. Donc, d'une certaine manière, c'est une autre façon de dire qu'elle se sert assez allègrement dans la collection accumulée des souvenirs, des images, des valeurs, de tout ce que l'humanité nous lègue.
Oui, alors c'est là où ça rentre dans un sujet très compliqué, parce qu'en fait on sait jamais qui on a volé ou pas, vu que c'est une sorte de pâte, un peu comme du ciment. Alors c'est une métaphore parce que c'est pas tout à fait ça, mais on peut imaginer du béton, du ciment, de la poudre. Je mets ça en référence à Stéphane de Goutin, avec qui travaille aussi sur la poudre, des images. Et donc c'est cette espèce d'amalgame qui est vectorisé, qui donc n'est pas, ce ne sont pas des images qu'on récupère, il n'y a pas d'imitation des images, mais il y a une sorte de mise en poudre, on pourrait dire, qui fait qu'à la fin, on peut toujours se dire, ah oui, il y a un air de déjà vu, de plusieurs sources, mais lesquelles et comment et pourquoi et qu'est-ce qui est devenu telle peinture par rapport à telle autre. Et c'est ça aussi, et là, je dirais qu'il y a aussi un trouble dans la création qui est aussi intéressant malgré tout. Là où je rejoins Éric Bulot dans le travail autour d'Abel Gance, c'est qu'il y a un moment donné où ça peut fonctionner aussi comme ça dans notre propre cerveau par métaphore, où quand on travaille, on mélange aussi des univers, qu'on mixe et on recrée de nouvelles choses.
Vous êtes venu.
C'est pour ça qu'il y avait la référence à Turner qui revient dans le livre, puisque c'est le moment où, dans l'histoire de l'art, il y a un moment où on va quitter l'imitation pour renverser le paradigme de création. Donc il y a ce côté-là qui est très fort, très problématique, mais qui est quand même, il y a une ambiguïté intéressante.
Vous êtes venu, Marie-Bé Sauvage, avec une vidéo. On en écoute un extrait, puis vous nous en dites un mot si vous voulez bien.
Silence, please. We would like a great applause for the latest addition to our factory. Our new guests will check alignment automatically, monitor consistency, and remove every speck of dust from the electrode. We thank you for your years of service and announce that we are no longer in need of your labor supply.
Supply chain is threatened. It will not outstrip demand. Emerging technologies will quickly fill a policy void.
Void the evidence. Due diligence on the supply chain is only voluntary. Here is proof of each nation's ability to wield power at an unparalleled speed.
Speed at which you are working. So hard you cannot sleep at night.
Alors qu'est-ce qu'on entend dans l'Abbé Sauvage ?
Ce qu'on vient d'entendre, c'est le début de The Rock Speaks, un film de Amy Louise Wilson et François Knotze, qui sont deux artistes basés en Afrique du Sud et qui travaillent actuellement à un grand projet sur l'histoire minière du continent africain en général. Ils ont travaillé sur l'histoire de l'uranium, des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki qui provient des mines de République démocratique du Congo, ce qu'on sait peu. Et donc ils poursuivent leur travail sur la RDC en documentant de manière assez intéressante, puisqu'ils ne prennent aucune image en prise de vue réelle, ce sont que des images générées, même si ça passe pas très bien par le son, mais le film ne fait que apparaître, ne fait que générer des images, donc de la situation en RDC, qui est assez complexe. On en entend beaucoup parler aujourd'hui parce qu'il y a un vrai conflit, plusieurs milices qui se combattent dans la région des lacs, à l'intérieur de la RDC, la région autour du lac Kivu, pour prendre le contrôle de la chaîne d'approvisionnement de plusieurs minerais, notamment le cobalt ou le coltan. Et ce que le film essaye de recréer, et ce qui m'intéresse moi, ce sont vraiment plutôt les questions d'image, c'est, comme le titre du film l'indique, The Rock Speaks, c'est de faire parler en quelque sorte ces minéraux par la voix des mineurs et des personnages que l'on voit dans ce film. Et donc le film est composé comme une sorte de galerie de portraits, d'images qui sont tous générées, qui sont de personnes qu'on ne connaît pas, mais à qui on donne pourtant un visage, et qui tentent, en nous montrant toutes les étapes en fait de la chaîne de production, l'extraction, mais aussi les immenses chaînes logistiques qui sont construites pour approvisionner les usines qui vont ensuite raffiner tous ces métaux qui sont en Chine et donc qui nécessitent des convois. On voit des convois dans le désert, ensuite des grands porte-containers et qui nous montrent en fait toute cette histoire cachée ou en tout cas obfusquée de l'intelligence artificielle.
Oui, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, soutenu une thèse qui s'appelait « Politique du cinéma de poésie » et on voit bien, Éric Bulot, que ne devrait pas opposer trop strictement cinéma du réel et cinéma du rêve, puisque déjà dans votre livre Cinéma vivant, au fond, on voit sinon cette matérialité, du moins ce souci du monde et des choses.
Oui, oui, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Barnabé Sauvage, c'est que effectivement, on peut se demander, même s'il n'y a pas un courant presque un peu moderniste dans l'usage de l'IA, qui est... Alors, c'est sur la... C'est sur sa base extractiviste qui vient informer à la fois les processus de travail, de fait, mais aussi la nature des images et leur puissance. Et moi, j'ai été frappé aussi à un moment en étant entraîné par les images, par voir comment la question du soleil, du radium, du cristal, enfin, tout à coup, venait informer la formation des images.
Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Ooh.
Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?
France Culture, allons-y voir, Patrick Boucheron.
Bonjour Sophie Crass.
Bonjour.
Alors, on a parlé un peu d'économie de l'art, de comment vendre son art, donc ça, vous êtes dans votre élément. Avec l'IA, enfin oui et non, d'une certaine manière.
Exactement, c'est aussi comment ne pas vendre son art, ouais, en réalité, dont on va parler. Et puis pour en parler, je voudrais faire un tout petit détour par une des vitrines de l'exposition du jeu de paume, Le Monde selon l'IA, dont il a été question déjà. C'est une vitrine qui est dédiée à un personnage qui pourrait paraître un petit peu incongru dans une exposition d'art contemporain. Il s'agit de Joseph-Marie Jacquard, l'inventeur au début du 19e siècle du métier à tisser qui porte son nom. Pour les organisateurs de l'exposition, lui consacrer une vitrine, c'est une manière de souligner que le codage, la computation trouvent une origine lointaine dans ce premier métier à tisser programmable grâce à ces cartes perforées, dont on voit d'ailleurs dans la vitrine des échantillons qui ont été prêtés par le Musée des Arts et Métiers. Comme le notait la mathématicienne Ada Lovelace en 1843 à propos des plans pour la machine analytique conçue par Charles Babbage, c'était une machine à calculer qui est aujourd'hui reconnue comme l'ancêtre de l'ordinateur, elle écrivait « Il serait juste de dire que la machine analytique tisse des motifs algébriques, tout comme le métier à tisser jacquard tisse des fleurs et des feuilles. »
Ça, c'est le rapport entre la mécanisation du tissage et l'intelligence artificielle du point de vue, je dirais, esthétique, mais aussi du point de vue de l'économie politique, on pourrait aussi développer.
Exactement, ouais. Exactement, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un lien technique ou d'archéologie des médias, il s'agit aussi d'une histoire commune en matière d'économie politique. En effet, parce que ce métier à tisser jacquard exigeait deux fois moins d'ouvriers pour produire la même quantité de tissu, et puis parce qu'il préenregistrait les motifs textiles à l'intérieur de ces cartes perforées, ce métier à tisser a provoqué au XIXe siècle la suppression de nombreux emplois et la déqualification de nombreux autres. Une situation qui, évidemment, n'est pas loin de celle que risquent de connaître de nombreux métiers créatifs et artistiques aujourd'hui. Je pense aux traducteurs et traductrices, bien sûr, aux écrivains, mais aussi aux graphistes, photographes, retoucheurs, illustrateurs. Toutes et tous voient déjà leurs opportunités d'emploi, leurs conditions de rémunération être menacées par des machines qui sont capables de générer en quelques minutes une grande quantité d'images et de textes d'une qualité qu'on juge toujours plus convaincante ou en tout cas suffisante. De même que l'automatisation des métiers à tisser avait puisé dans les savoirs des tisserands pour déqualifier leur métier, eh bien l'IA se nourrit, on l'a dit, hein, des créations artistiques passées pour ôter aux créateurs et créatrices une partie de leurs opportunités de revenus.
Alors j'imagine que cette menace n'est pas passée totalement inaperçue parmi les artistes.
Tout à fait. Je pense à une enquête menée récemment par l'ADAGP, qui est la Société de gestion des droits d'auteur dans les arts graphiques et plastiques en France, qui révèle que 60% des artistes, auteurs et autrices considèrent l'essor de l'IA comme une menace pour leur activité professionnelle, un taux qui atteint 78% chez les artistes de l'illustration et de la bande dessinée. Donc sans surprise, hein, ils sont pour l'instant les premiers visés. Le problème posé par les IA génératives est double. D'une part, elles sont susceptibles de réduire le volume d'emploi pour les artistes, et il y a déjà 16% des artistes interrogés qui le constatent. Et d'autre part, et c'est ce qui concerne au premier rang la DAGP, les IA génératives, en moissonnant les images disponibles sur Internet pour nourrir leur computation, portent atteinte aux droits d'auteur, à la fois en termes de consentement et de rémunération. Tout domaine confondu, les artistes sont 65% à se dire opposés à l'exploitation de leurs œuvres par les logiciels d'IA, même contre rémunération. Il faut bien dire que les sommes qui sont aujourd'hui perçues au titre des droits de reproduction par les artistes sont en règle générale très faibles. Moins de 1 000 euros par an pour la moitié des artistes qui ont perçu des revenus de la propriété artistique selon une étude de 2020. Il est probable qu'avec des frais de perception qui vont être élevés et complexes, les droits susceptibles d'être générés par l'IA seraient bien incapables d'assurer une réelle rémunération aux autrices et aux auteurs.
Alors que faire ? Parce que si je suis votre idée, peut-être, la comparaison avec le métier à tisser, il faut peut-être casser les machines, non ?
Alors voilà, c'est une option. On se souvient évidemment que la mécanisation du tissage a suscité des épisodes de très grandes révoltes ouvrières. Je pense à celle des Canuts à Lyon ou des Ludites en Angleterre, durant lesquelles ces métiers ont été effectivement brisés par les ouvriers. Donc faut-il briser les IA ? Cette mémoire n'est pas explicitement rappelée dans l'exposition du Jeu de Paume. On ne voit aucun artiste en train de briser son IA. Mais c'est pas pour autant que cette mémoire s'est perdue chez les artistes d'aujourd'hui. Voici ce que je lis dans une publication affichée par le syndicat des travailleurs et travailleuses artistes, auteurs et autrices. Je cite « Comme les ludites avant nous, nous voyons notre travail et notre expertise réduit à peau de chagrin. Nous nous voyons transformés en extension de la machine, nos œuvres réduites au statut de matière première, régurgitable à volonté. Tout cela au profit de quelques entreprises constituantes du système capitaliste dans lequel il est de plus en plus difficile de subsister. » Pour le collectif Labuse, qui réunit des plasticiens, plasticiennes, commissaires d'exposition, chercheurs et chercheuses, il faudrait plutôt, à en croire Aurélien Catin, l'un des porte-parole de ce collectif, déconnecter le travail artistique de la propriété artistique et s'acheminer vers ce qu'il appelle un salaire continué, financé par les diffuseurs et par la solidarité interprofessionnelle. Ce sont des solutions politiques et non simplement des solutions techniques ou juridiques qu'il nous faudra trouver.
Oui, merci Sophie. Il faut effectivement des solutions politiques, mais aussi également sans doute des solutions artistiques, créatives. Vous ne prônez pas le bris des machines, je crois pas, Gwenola Wagon, mais enfin en tout cas un rapport critique à ce qu'elles produisent. Je lis d'ailleurs dans Les Images Pyromanes, le livre que vous avez publié avec Pierre Cassou-Nogues, cette définition flottante, dites-vous, de l'IA. L'IA désigne ce que la recherche nous promet de voir advenir. C'est une promesse de ce qui doit advenir, mais on n'est pas non plus obligé d'y consentir.
Oui, heureusement. Fort heureusement.
Ça, je ne sais pas d'ailleurs.
Pour l'instant, en tout cas, il faut en profiter. Mais il y a plusieurs attitudes. Je pense beaucoup d'artistes de l'exposition travaillent sur le détournement, les failles, les bugs. Et ils travaillent au contraire, à montrer parfois le danger de l'IA, et parfois c'est peut-être plus fort dans ce sens-là, il me semble. Parce que briser les machines, c'est impossible. On peut pas aller briser des machines qui sont enterrées dans des data centers à l'autre bout du monde. Il faudrait plusieurs tsunamis, ouais, en fait. Donc manuellement, physiquement, c'est physiquement impossible. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas ces propositions dans l'exposition. Parce que Mais par contre, d'autres postures sont envisageables. Détourner, montrer l'aberration, comme le fait Barnabé Sauvage, montrer tout ce qu'il y a derrière, et la face cachée du système me semble une des voies les plus essentielles.
Oui, donner à voir cette géographie de la domination aussi, parce que les data centers, ils pèsent lourd sur la Terre et en certains endroits de la Terre, pas partout évidemment.
Oui, et puis effectivement, c'est une des approches parmi les plus intéressantes suivies par l'exposition, notamment donc au premier étage, où vous voyez, c'est pas la première salle, mais c'est la deuxième, cette exposition de l'œuvre Calculating Empires de Kate Crawford et Vladan Yoler, qui vient récemment d'être récompensée à la Biennale d'architecture à Venise d'un lion d'argent, qui est en fait une proposition de cartographie à la fois spatiale, mais aussi temporelle, de toute une histoire. C'est une sorte d'histoire du bas vers le haut, du début du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, de ce qui va aussi aboutir à l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est de la lire aussi de manière horizontale, puisque cette cartographie montre aussi les systèmes de pensée, les systèmes disciplinaires, les systèmes d'organisation du travail qui sont concurrents en même temps que par exemple le métier jacquard. On voit que c'est le début de l'organisation du travail posté par exemple. Enfin, il y a comme ça un effet de mise en relation de différents systèmes. Disons que l'histoire de l'intelligence artificielle n'est pas que une histoire technique, c'est aussi une histoire sociale, politique, et donc c'est pour ça aussi que les réponses qu'on doit y apporter doivent être de sociales et politiques.
Et puis c'est une histoire longue, hein. Vous parlez des automates Gwenola Wagon dans votre livre, et vous, Éric Bouillot, ben, vous montrez comment, au fond, le cinéma d'avant-garde dans les années 30 a préfiguré ce qui nous est donné à voir, mais toujours sans doute en prenant le parti de l'aléa, de l'accident, de l'accro. C'est ça qui est important, au fond.
C'est ce qui me semble intéressant, parce qu'en fait, si on n'a pas le choix, on est obligé d'y consentir, parce qu'elle est partout, l'IA. Elle est dans nos téléphones, elle est dans... Mais c'est vrai que c'est intéressant, je pense que les artistes l'explorent et l'expérimentent. Il y a quelque chose d'un peu empirique, en fait. Et je pense que ça, c'est quand même un peu un devoir, là aussi politique, d'aller y voir... pour rendre hommage au titre
Merci.
De votre émission.
Merci. Qui s'achève. J'en profite pour vous le dire.
Ouais. Mais voilà, je pense que ça, c'est quand même très important d'explorer.
Enfin, qui s'achève pour aujourd'hui, évidemment. Sophie Kras, un mot, vous l'avez vu, cette exposition, qu'est-ce qui vous a intéressé?
Oui, alors ce que j'ai trouvé fascinant, et ça résonne tout à fait avec ce que Éric Bouillot vient de dire, c'est que en se saisissant de l'IA, les artistes vont au bout, vous le disiez aussi, des bugs, mais aussi de saisir la machine à contre-emploi. Et en ce sens, investissent énormément de travail manuel, en fait, dans cette automatisation. Si bien que les œuvres qu'on voit, pour moi, elles sont vraiment bien plus de l'intelligence humaine, et même, je dirais, artisanale, en fait, manuelle, que véritablement de l'intelligence artificielle.
Et puis évidemment, ça c'est le point commun avec tous vos travaux, ça met en rapport et en inquiétude la question de la fiction. Hein. Par exemple, si vous écoutez ça, vous vous dites c'est Angèle qui chante. Et en fait, non. Non, elle a jamais chanté ça. C'est l'IA qui lui prête, qui prend sa voix et qui prête effectivement à Angèle une chanson qu'elle n'a pas, à moins que ça soit l'inverse. Malgré tout, quand on entend ça, on se dit que la question que vous posez, Sophie Kras, elle est sérieuse. Elle est vraiment sérieuse, la question du modèle économique pour les artistes. C'est quelque chose qui, effectivement, on le comprend bien, ne peut pas, au fond, être réglé avec les modèles anciens, mais enfin, il va falloir le trouver, ce modèle.
Ouais. Et c'est une question qui d'ailleurs touche à l'histoire très très longue des droits d'auteur, qui touche simultanément au consentement et à la rémunération. C'est-à-dire que la question des droits économiques que l'on pourrait associer en fait à la circulation des œuvres est indissociable du simple consentement à voir son œuvre, son style, sa voix utilisée.
On va pas finir l'année, on va se séparer.
Eh bien, c'était Allons-y voir. Merci à vous quatre, Gwenola Wagon, Éric Bouillot, Barnabé Sauvage et Sophie Kras. Les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet, Anouk Minaudier et Lilou Maupetit, à la prise de son Ludovic Auger et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.